10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1, avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Bonjour Marlène Schiappa.
Bonjour.
Le pluralisme intellectuel ou spirituel ne prétend pas à une vérité comparable à celle des mathématiques ou de la physique. Il s'enracine dans notre culture. Ces mots sont tirés des mémoires de Raymond Aron, cet observateur et spectateur d'une époque qui professait une méthode, être un modéré à l'excès. Et c'est en quelque sorte un résumé du Paris macroniste dont l'heure de vérité approche en même temps que la fin du quinquennat. Et c'est à ce titre également, Marlène Schiappa, que vous cherchez toujours à incarner ce bouleversement qui a été l'irruption du macronisme en 2017. Vous avez découvert, vous, le pragmatisme en arrivant place Beauvau en tant que ministre délégué en charge de la citoyenneté. Vous ne renoncez pas à prendre des risques, à heurter, au risque d'agacer. Parfois, on en parlera. Votre message, en tout cas envoyé à une Macronie fatiguée et claire, ça n'est qu'à ce prix qu'une réélection peut être envisageable. Tout cela, on va parler ce matin avec Nicolas Barré des Échos et Damien Fleurot de CNews. Mais avant cela, l'escalade continue avec la Turquie. Jeudi à Ajaccio, lors d'un sommet sur la Méditerranée, Emmanuel Macron a rappelé que la Turquie est un allié de l'OTAN. Elle s'oppose à la Grèce en Méditerranée pour des prospections gazières. Mais il faut être ferme avec son dirigeant. Et la réponse n'a pas tardé. On écoute, on regarde, vous réagissez.
Il dit qu'il n'a pas de problème avec le peuple turc, mais avec Erdogan. Monsieur Macron, vous n'avez pas fini d'avoir des ennuis avec moi.
Comment la France doit-elle réagir à cela ?
Je crois qu'il y a deux choses. D'abord, notre volonté, c'est évidemment d'éviter l'escalade. On ne répond pas à la provocation par la provocation, sinon c'est justement cette escalade qui arrive. Ensuite, je pense qu'il y a deux choses à faire. Un, poser des lignes rouges, et c'est ce que le président Emmanuel Macron a fait vis-à-vis de la Turquie, vis-à-vis de M. Erdogan, d'une part. Et d'autre part, vouloir poursuivre le dialogue. Vous évoquiez le sommet du MED7 qui s'est tenu en Corse, où j'ai pu accompagner le président de la République, ainsi que Jacqueline Gourault, Gérald Darmanin, Jean-Baptiste Lemoyne. Et effectivement, à cette occasion, les pays des bords de la Méditerranée ont pris une résolution concernant la Turquie en demandant un dialogue exigeant. Je crois qu'il y a effectivement des lignes rouges qu'il ne faut pas franchir, surtout quand on est un partenaire comme l'est la Turquie.
Nicolas Barré, rapidement.
Depuis quelques années, le régime turc se radicalise. La Turquie, comme d'autres pays d'ailleurs, nomme des imams en France. Est-ce qu'on peut encore faire confiance au gouvernement turc pour cela ?
Je crois qu'il y a une ligne de crête en la matière et c'est pour ça que nous sommes en train d'y travailler avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Et le projet de loi contre les séparatismes sur lequel nous travaillons devra notamment pouvoir mettre au débat public cette question et y apporter des réponses. Je crois que là-dessus, on est sur une ligne de crête, comme je le disais. La ligne de crête, quelle est-elle ? C'est que d'abord, au terme de la loi de 1905, l'État ne salarie, ne subventionne, ne reconnaît aucun culte. C'est l'article 2 de la loi de 1905.
Tout à fait.
Ça, c'est une chose. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas, nous, gouvernement, État, République française, organiser une religion et prendre part à l'organisation d'une religion, d'une part. En revanche, effectivement, il y a des questions derrière qui se posent, notamment des questions d'ordre public, des questions de sécurité intérieure. Et est-ce que nous pouvons, à l'inverse, accepter que des imams qui ne respectent pas les valeurs de la République arrivent en France et prêchent ? Je ne le crois pas. Donc c'est cette ligne de crête que nous avons trouvée. Je ne dis pas que tous les imams qui viennent de Turquie soient radicalisés. Je ne dis pas cela. Je pense qu'il faut être très prudent dans ce que l'on dit. Mais je dis que toute personne se présentant comme un imam et tenant des propos de haine, qu'elle vienne de Turquie ou d'ailleurs, au demeurant, ou qu'elle vienne d'ailleurs même de France, eh bien nous devons pouvoir lutter contre cette personne.
Je vous pose la question parce que jadis, la Turquie était un grand pays laïque. Donc a priori,
oui, bien sûr,
on partageait les mêmes principes. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas.
D'ailleurs, la Turquie a été longtemps en avance sur la question de l'émancipation des femmes. Et quand on regarde l'histoire de la Turquie, on voit qu'effectivement, historiquement, la Turquie a porté cette émancipation des femmes. Et je crois que ça doit être remis au goût du jour partout.
Mais au titre de la sécurité intérieure, il n'y a pas que les imams. Est-ce qu'il y a peut-être une surveillance accrue qui se fera autour des activités politiques de certains groupes qui peuvent être considérés comme propageant la menace, en tout cas la provocation que vous soulignez chez le président turc?
Oui. D'abord, moi, vous savez, je suis chargée de l'intégration des étrangers en France. Et donc, je voudrais dire quelque chose qui est l'évidence, mais qui me semble important de rappeler, c'est que la Turquie est un grand pays. C'est un pays ami. Le peuple turc est un grand peuple et son histoire est intimement liée à celle de la France. Il y a beaucoup de Turcs qui vivent en France dans la paix et dans le respect le plus total des valeurs de la République. Pour le reste, pour la question particulière que vous évoquez, il y a un travail de renseignement, un travail de sécurité intérieure qui est mené et là qui se mène évidemment à bas bruit dès lors qu'il y a des soupçons.
Damien Fleurot.
Marlène Schiappa, est-ce que vous êtes une ministre soulagée ce matin? Le mouvement des Gilets jaunes faisait sa rentrée hier et n'a pas mobilisé. C'est la fin de ces manifestations qu'on a vues par le passé.
Moi, je distingue deux choses dans le mouvement des Gilets jaunes. D'une part, je distingue la revendication sociale. Et moi, vous savez que j'ai beaucoup dialogué dès le tout début, d'ailleurs, notamment avec ces mères célibataires qu'on a vues sur les ronds-points, que j'ai reçues pour de nombreuses consultations. D'une part, il y avait cette revendication sociale, et d'autre part, il y avait ces manifestations violentes, ultra-violentes, ces appels à la haine vis-à-vis des personnes, vis-à-vis de la République, des gens qui manifestent avec des têtes au bout d'une pique, qui détruisent l'Arc de Triomphe, qui cassent des vitrines, et ça, ce n'est évidemment pas acceptable. Donc hier, on peut voir que l'ordre républicain a été maintenu et qu'effectivement, les mobilisations ont largement décru.
C'est la nouvelle doctrine du maintien de l'ordre qui a fonctionné selon vous, s'il y a eu peu de... Il y a eu des échauffourées, il y a eu des tensions avec les forces de l'ordre.
Moi, j'observe qu'effectivement, l'ordre a été maintenu hier. Voilà. Après, je pense qu'il faut se garder de toute récupération de telle ou telle part, mais en tout cas, l'ordre républicain a été globalement maintenu. Il y a des gens qui ont été interpellés. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en a dressé un bilan hier soir aux côtés du préfet, et je crois que ça, on peut s'en réjouir.
Alors, vous venez de le rappeler, effectivement, au cœur de la crise des Gilets jaunes, vous vous êtes distingué au sein du gouvernement en disant il faut leur parler. Ouais. Il n'y a pas que des, voilà, que des extrémistes. Il y a des personnes isolées, les mères célibataires, les personnes que vous avez donc évoquées. C'est un mouvement, je dirais, voilà, des derniers de cordée. Qu'il faut prendre en compte. C'était votre approche à ce moment-là. Ouais. On a vu hier également des responsables de discothèques, de bars de nuit, également des chauffeurs de VTC. On sait que beaucoup de personnels soignants sont sensibles aujourd'hui à la colère portée par les Gilets jaunes. Est-ce que pour vous, ce gouvernement, le pouvoir auquel vous avez appartenu, vous appartenez, est-ce qu'il a su parler finalement à cette partie de la population ?
Écoutez, je peux pas être jugé parti, c'est pas à moi de nous donner les bons points, mais moi j'observe qu'effectivement il y a des revendications qui ont été entendues, ça a donné lieu au grand débat, je le rappelle parce que l'actualité va tellement vite qu'on oublie les choses qui se sont passées il y a à peine quelques mois ou un an. Et par exemple, à cette occasion, il y a une revendication forte des mères célibataires. Bon, j'avais reçu Ingrid Levavasseur et d'autres dans mon ministère. C'était celle qui portait sur les questions de non-paiement des pensions alimentaires.
Alors, comment ça a avancé finalement?
Le président de la République, à l'issue du grand débat, a répondu en disant que nous allions mettre en place un système d'intermédiation pour faire en sorte de lutter contre les impayés de pensions alimentaires. Et ce système, il a été voté. Donc, il rentrera en vigueur le 1er janvier 2021. On mettra fin aux impayés de pensions alimentaires en renforçant les dispositifs de la CAF, de la Caisse d'allocation familiale, pour qu'on puisse aller chercher l'argent chez l'ex-mari, le père de famille, mauvais payeur, qui ne veut pas prendre ses responsabilités.
Mais en fait, on voit bien aussi que, une fois de plus, pour reprendre cette question, on voit que des collectifs se sont organisés, notamment au sein des personnels soignants, pour pouvoir protester contre un plan Ségur qui n'accepte pas. Est-ce que vous craignez, parce que est-ce que pour vous, ce qui s'est passé hier, je reprends la question de Damien Fleurot, on n'a pas saisi la réponse, est-ce que pour vous c'est fini? Ou est-ce qu'il y a encore une crainte à avoir sur la colère sociale?
Alors, d'abord, moi je ne suis pas Madame Soleil, donc moi je ne vais pas vous dire là, les Gilets jaunes c'est fini, il n'y aura plus de manifestations, je ne maîtrise pas la volonté de mobilisation des uns et des autres d'une part. En revanche, nous, on n'est pas inquiets, on est vigilants. Et donc, ce n'est pas de l'inquiétude, c'est de la vigilance et c'est du travail. Et je crois que c'est notre responsabilité, en période de crise économique, d'apporter des réponses.
Mais quand vous entendez les organisations syndicales appeler à manifester, là, dans quelques jours, vous dites il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de lieu de descendre dans la rue parce que le gouvernement a répondu avec les 10 milliards à l'issue du grand débat, avec le plan de relance.
Je suis très respectueux de la liberté syndicale et de la liberté, y compris à appeler à manifester, même quand je ne suis pas d'accord avec ces revendications. Mais ce que j'observe, c'est que nous sommes le seul pays au monde qui ait mis autant d'argent sur la table pour sauver des emplois. Pas pour sauver des emplois, pas pour sauver l'économie. On ne fait pas face là à une crise du capitalisme sauvage qui créerait, comme c'était le cas pour la crise des subprimes ou autre. On fait face à une crise sanitaire qui a un impact sur l'économie, qui a un impact sur la vie des gens. On sauve les emplois et on a permis à des gens de rester chez eux et de toucher leur salaire ou du chômage partiel, etc., pour que ces personnes ne se retrouvent pas au chômage.
Sur la question des braises sociales qui peuvent revenir, quelle est votre analyse, votre crainte ou votre vision
des
choses?
Encore une fois, nous, on n'est pas là pour craindre, on est là pour travailler et y répondre. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'a fait Olivier Véran avec le Ségur de la Santé. Alors j'entends que certains considèrent que ça ne va pas assez loin. Le dialogue continue. Jean-Michel Blanquer a annoncé un Grenelle des professeurs pour travailler sur les salaires de ces enseignants. Sur la question des gens qui ont été en première ligne pour travailler pendant la période de Covid, moi, j'ai commencé à regarder pour pouvoir accélérer la naturalisation des personnes qui sont de nationalité étrangère, qui s'étaient engagés dans une démarche pour devenir citoyens français. Et ce sont ceux qui ont ramassé les poubelles, qui ont gardé les enfants, qui ont travaillé dans les hôpitaux en première ligne pendant le Covid.
Ça pourrait concerner combien de personnes ?
Alors, j'ai demandé au préfet de me faire des remontées. Je n'ai pas encore les remontées chiffrées exactes. Mais moi, j'observe que ces personnes ont démontré leur attachement à la nation en étant en première ligne, justement pour sauver des vies. Et que donc, on doit pouvoir faire aussi ce pas vers eux. Emmanuel Macron a dit au Panthéon, la République, c'est une volonté. Ils ont démontré leur volonté d'en faire part. Je crois que c'est à la République de faire ce pas vers eux et de leur dire que nous reconnaissons cet engagement de leur part aussi.
L'humoriste Jean-Marie Bigard, qui se voulait tête de pont de ce mouvement, comme on l'a entendu depuis quelques temps, hier s'est fait conspuer, a eu un problème avec les gilets jaunes, parce qu'au fond, il s'est désolidarisé des propos d'un gilet jaune qui a comparé donc les policiers à des nazis. Qu'est-ce que vous en dites ?
J'ai vu ces propos, ils sont absolument abjects. D'abord, historiquement et factuellement, ils n'ont aucun sens. Je crois qu'ils sont insultants pour les victimes du nazisme, tout autant que pour les victimes, tout autant que pour les policiers qui travaillent. Et Jérôme Rodriguez, j'ai vu qu'on lui donnait beaucoup d'excuses pour avoir tenu ces propos. J'aimerais savoir quelle excuse on lui donne pour avoir été mis en cause pour des violences conjugales, dont il s'est d'ailleurs vanté lors d'un débat public avec la France Insoumise. J'aimerais savoir quelle excuse on lui trouve pour cela.
On y reviendra certainement. En tout cas, on se retrouve avec Marlène Schiappa pour voir si l'exécutif n'est pas malade du Covid.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et surtout notre invité Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de la citoyenneté. Alors, s'il y en a un qui n'a pas raté sa rentrée, malheureusement, c'est le coronavirus. On écoute, on regarde.
Notre stratégie ne varie pas. Lutter contre le virus en évitant de devoir mettre entre parenthèses notre vie sociale, culturelle, économique, l'éducation de nos enfants et notre capacité à vivre normalement.
Marlène Schiappa, pouvez-vous nous dire ce matin qu'il n'y aura pas de reconfinement total du pays ?
Alors, vous voulez beaucoup que je prédise l'avenir ce matin dans le grand rendez-vous ?
Non, mais c'est une question que les Français se posent.
Non, mais je crois que l'idée, gouverner, c'est prévoir.
Non, mais vous avez raison de la poser. Je crois que l'idée, c'est justement d'éviter à tout prix. Nous, le gouvernement veut éviter à tout prix qu'il y ait un reconfinement. Parce que d'abord, ça a un impact économique, on le sait, ça a aussi un impact social. On a vu une augmentation des violences intrafamiliales, des violences vis-à-vis des enfants, une désocialisation des enfants et des adolescents qui se sont retrouvés isolés chez eux, un décrochage scolaire pour certains, pas uniquement dans les familles les plus modestes, comme ça a parfois été dit, mais aussi dans les familles où simplement on n'est pas enseignant, on ne peut pas s'improviser enseignant. La pédagogie, c'est quelque chose qui s'apprend pendant des années, et parfois, en tant que parent, on est démuni, surtout si on doit travailler en même temps. Donc pour toutes ces raisons, et pour d'autres encore, oui, nous voulons éviter un reconfinement. C'est pour ça que des mesures un peu strictes, notamment sur les questions de port du masque, sur les questions de rassemblement, pour éviter ce reconfinement.
Justement, Nicolas Barré.
Justement, vous participiez au Conseil de défense vendredi. En fait, le gouvernement aurait pu prendre des mesures beaucoup plus dures. On nous dit d'ailleurs qu'elles étaient prêtes, hein, notamment pour Marseille, Bordeaux, la Guadeloupe, annulation de foires et d'événements culturels et sportifs en milieu fermé, interdiction systématique de rassemblement de plus de 10 personnes, etc. etc. Il y avait, toutes ces mesures beaucoup plus dures étaient prêtes. Et finalement, pourquoi est-ce que le président de la République n'a pas suivi ces recommandations ?
Vous savez, il y a quelque chose qui nous caractérise et qu'on dit, nous, c'est les marcheurs, les macronistes, c'est comme le mot que vous choisirez, c'est qu'on est pragmatique. Et donc, on ne veut pas prendre des décisions si ces décisions, elles ne sont pas applicables ou qu'elles sont difficilement applicables. Donc, on regarde les effets concrets sur le terrain. En ce qui concerne les rassemblements de plus de 10 personnes, le Conseil d'État s'est prononcé et a retoqué cette possibilité. Donc il y a déjà un sujet juridique, d'une part. D'autre part, les forces de l'ordre sont déjà extraordinairement mobilisées sur les questions de port du masque. Je ne crois pas qu'il soit souhaitable de leur demander en plus d'aller vérifier quels sont les rassemblements. Nous en appelons à la responsabilité des Français. Les Français, c'est un peuple qui est intelligent, qui comprend, qui est intéressé par la science quand on regarde.
C'est pas une manière de masquer, si je puis dire, le fait que vous soyez un peu démunis. Vous dites, les policiers, ils ont déjà fort à faire. Nous avons aussi beaucoup de choses, on ne peut pas démanteler l'école. Mais en réalité, au fond, ce qu'on a aussi compris au cours de ce Conseil de défense, c'est que le président trouvait que les plans n'étaient pas assez prêts, n'étaient pas assez élaborés.
Écoutez, ça, moi, je ne fais pas parler le président de la République.
Vous avez assisté, vous le savez.
Bien sûr, moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a, il y a eu 1 million de tests, et ça, c'est fondamental. Il y a 2 000 recrutements auprès des ARS, sous l'impulsion du ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran. Donc non, nous ne sommes pas démunis, nous ne sommes pas les bras ballants en regardant ce qui se passe. Nous sommes dans l'action,
mais
dans l'action
concrète. Pas le grand bazar, comme le dit le JDD aujourd'hui.
Non, dans l'action concrète et réelle. Il y a 42 départements qui sont placés maintenant en rouge. Et le Premier ministre Jean Castex l'a toujours dit, nous nous basons pour gérer cette crise sanitaire sur les décisions locales, de terrain et sur le couple maire-préfet qui peut prendre des décisions très concrètes en regardant ce qui se passe territoire par territoire. La situation, elle n'est pas la même à Marseille, à Lyon, à Bordeaux, dans la Creuse, le nord de la France.
Mais on a entendu de nombreuses voix dans la communauté scientifique, notamment, réclamer des mesures beaucoup plus sévères, beaucoup plus strictes. Donc, c'est pour ça qu'on se demande pourquoi le gouvernement,
mais
finalement, n'est pas allé aussi
conseil,
loin que...
D'abord, il y a des mesures qui sont strictes, pardon de le dire, mais je crois qu'il faut là aussi rappeler où nous en sommes. Il y a beaucoup de nos concitoyens pour lesquels c'est une mesure stricte et difficile que de porter le masque toute la journée, de limiter, de respecter les distanciations sociales, de se laver les mains. Je le rappelle parce qu'on l'a moins dit ces derniers temps, donc on a l'impression que si on respecte le mètre de distance, tout va bien. Il faut aussi encore porter le masque, se laver les mains, respecter les mesures d'hygiène, ne pas manger dans les mêmes assiettes, boire dans les mêmes verres, etc. Ça, je crois que c'est important de le rappeler. Et le gouvernement lance une campagne de communication avec un spot choc difficile pour montrer quelles sont les conséquences de ce non-respect. Quand on voit nos grands-parents, moi je le dis aussi en tant que maire, c'est la rentrée. Elle est déjà lancée, le porte-parole du gouvernement vient de la lancer. Quand on est pendant la rentrée scolaire, on a besoin de l'aide de nos parents, de nos beaux-parents pour s'occuper des enfants, parfois. Ceux qui ont la chance d'avoir des parents qui sont actifs et qui peuvent venir nous aider. Eh bien, il faut là aussi encore respecter les distances de sécurité parce que ne pas les respecter, c'est faire courir le risque de transmettre le virus. Le virus, il ne circule pas tout seul. Ce sont nous, ce sont les gens qui font circuler ce virus. Et donc, si on arrive vraiment à limiter ces contacts, à être responsable au quotidien, on réussira à limiter cette propagation du virus.
Schiappa, il fallait 4h30 de conseil de défense pour arriver à ce que vous nous dites là, ce qu'on entend depuis des mois. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces heures-là pour finalement arriver à ce qu'un Jean Castex vienne dire aux Français « Attention, la situation se dégrade, on va faire attention à ne pas être confinés et j'en appelle à la responsabilité ». Est-ce que des mesures plus dures sont en ce moment en préparation? Que va-t-il se passer pour Marseille, Bordeaux, la Guadeloupe? Parce que ce sont d'ailleurs très prochainement, peut-être même dès demain, des mesures qui seront annoncées. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Moi, je peux vous répéter ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que c'est le couple maire-préfet qui travaille sur ces questions. Si le préfet à Marseille, demain, je termine juste là-dessus, décide d'annuler des événements, il pourra le faire. Mais je rappelle que la jauge maximale... Mais je ne suis pas préfet des Bouches-du-Rhône. Et donc, ça lui appartient. C'est lui qui a la connaissance fine du territoire et qui peut prendre ses décisions au cas par cas. Et quant au Conseil de défense, ce n'est pas un groupe de parole. S'il a duré aussi longtemps, c'est que nous examinons très sérieusement et très attentivement la situation au cas par cas.
Damien Fleurot.
Les responsables politiques étaient reçus précédemment à Matignon dans la gestion de cette crise sanitaire. Olivier Faure a écrit au président de la République pour être à nouveau reçu, que les chefs de parti soient à nouveau reçus. Parce que vous nous parlez du couple préfet-maire, mais les responsables de parti ont un rôle à jouer aussi dans la gestion de cette crise sanitaire. Vont-ils être reçus? Dans combien de temps?
Pardon de rappeler 2-3 principes de démocratie, mais la politique et le responsable politique a évidemment un rôle à jouer. Il a un rôle à jouer de surcroît quand il est élu par les habitants. Et cette personne qui est élue par les habitants et qui exerce des responsabilités politiques, c'est le maire. Et c'est pour cette raison que le maire, qui est un responsable politique et qui est élu et qui est le représentant, qui est là par la voie de la démocratie, par la voie du peuple...
Donc vous fermez la porte à l'hypothèse.
Je ne ferme absolument pas la porte. Les responsables de parti ont souvent été reçus, vous l'avez rappelé, ils le seront encore probablement par le Premier ministre ou par le ministre de la Santé et des Solidarités. Nous consultons sans cesse, nous dialoguons, mais je crois qu'il ne faut pas non plus faire comme si nous reprocher tout et son contraire, si vous voulez. On ne peut pas nous reprocher à la fois de trop consulter, de pas assez consulter. Donc je crois que les choses sont sur les rails et qu'ensuite toutes les bonnes volontés sont évidemment bienvenues.
Le ministère de l'Intérieur est en charge des cultes. Est-ce qu'il faut s'attendre dans ce domaine à des mesures plus strictes sur le plan... pour les prochaines cérémonies religieuses qui auront lieu
alors,
la semaine qui
vient. C'est le ministre de l'Intérieur qui est le ministre de la Relation avec les cultes, donc ça n'est pas dans mon portefeuille ministériel, donc je poserai la question à Gérald Darmanin sur cette question.
On a quand même le sentiment que en cette rentrée, le gouvernement est pris dans une course contre la montre entre la crise sanitaire, la crise économique. Est-ce que le plan de relance n'est pas d'ores et déjà impacté par cette crise anxiogène qui continue à obsédé l'esprit des Français et du gouvernement.
Oui, bien sûr. Mais je crois que si ce que vous voulez dire, c'est que la période est très difficile et qu'on est aux confins de plusieurs crises et
ça,
que
on
gouverner
sait, la question que je vous pose, c'est est-ce que
est
du coup,
dans
ça
n'est
pas un risque pour que
oui.
ça mette
non,
le plan de relance
savez,
en difficulté.
Non, vous savez, Bruno Le Maire, et vous le savez, fondé parce que je crois confiance. Que vous l'avez reçu récemment, Bruno Le Maire est extrêmement mobilisé avec l'ensemble des ministres délégués, des secrétaires d'État qui sont à Bercy, notamment Agnès Pannier-Runacher, pardon, qui travaille beaucoup sur la question de la relocalisation industrielle, ou Olivia Grégoire qui travaille sur la responsabilité
oui,
sociale.
Tout le monde travaille, bien sûr, mais la confiance, est-ce qu'elle peut être là ?
Et ben, la confiance, elle passe aussi par le fait que tout le monde travaille et par le fait que dans ce gouvernement, chacun a des responsabilités définies et qui sont au cœur de ce que le président a appelé ses voeux, c'est-à-dire comprendre qu'en fait, on ne peut pas dépendre d'un point de vue industriel d'importations et de pays étrangers et que l'Europe, et singulièrement la France, doit retrouver sa souveraineté industrielle pour pouvoir produire, on peut parler de médicaments, on peut parler de différents outils, et pour pouvoir justement répondre à ces crises de manière autonome.
Damien Fleurot.
Oui, au début du confinement, vous aviez mis en place des mesures, des dispositifs pour venir en aide aux victimes des violences familiales et conjugales. Est-ce que ces dispositifs ont été efficaces ? Est-ce qu'ils vont perdurer aussi ?
Est-ce que le dispositif dans les pharmacies, les centres commerciaux
oui.
pour aider
alors,
les victimes des violences conjugales ?
Michaël Darmon ne va pas être content parce que je vais encore citer un membre du gouvernement. Mais
non, mais tout va bien. Moi, je n'ai aucun problème avec le fait que vous citiez simplement.
Parfait. Alors, je vous réponds. Ma successeure, d'abord, qui s'occupe maintenant de l'égalité des chances, Elisabeth Moreno, travaille sur ces questions. Mais pour vous répondre très clairement, oui, ce sont des dispositifs que nous avions mis en place, main dans la main avec Christophe Castaner à l'époque. Et du côté du ministère de l'Intérieur, nous voulons tout faire pour que les femmes aient accès au dépôt de plainte. Et donc, ça passe effectivement par les pharmacies. Et je salue d'ailleurs les pharmaciens qui ont joué le jeu. Ils auraient pu nous dire, on est en crise sanitaire, on a autre chose à faire. Non, ils ont joué le jeu. Il y a eu des signalements pour qu'on puisse déposer des plaintes. Et nous avons aussi créé une plateforme qui s'appelle arrêtonslesviolences.gouv.fr, qui est intégralement gérée par le ministère de l'Intérieur. Et vous avez deux unités de policiers et de gendarmes à côté de Rennes et à Guyancourt qui répondent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 aux femmes victimes de violences. Et aux témoins, je le dis, si vous êtes témoin de ces violences, n'hésitez pas à vous connecter sur cette plateforme pour préparer les signalements, les interventions, les plaintes aussi en commissariat et en gendarmerie.
Comment lutter contre le séparatisme ? On se retrouve dans quelques instants avec Marlène Schiappa.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Michaël Darmon.
Et Marlène Schiappa, donc en charge de la citoyenneté au ministère de l'Intérieur. Damien Fleurot.
Oui, Marlène Schiappa, vous allez défendre un projet de loi pour lutter contre les séparatismes. Le texte doit être présenté officiellement à l'automne. Oui. Comment comptez-vous y associer les différents acteurs ?
Alors, nous allons lancer avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, une grande consultation, un grand cycle de consultation dès la semaine prochaine et jusqu'à
donc
la fin de l'année.
Site internet.
Non, on va recevoir au ministère de l'Intérieur justement les différentes parties prenantes, donc à la fois les représentants des cultes qu'on évoquait tout à l'heure, mais également bien sûr les élus locaux qui sont concernés par ces questions, les parlementaires et puis un certain nombre d'experts avec lesquels nous travaillons déjà sur les questions de prévention de la radicalisation qui vont nous permettre d'ajuster notre projet de loi avec Gérald Darmanin.
Une sorte de table ronde sur une journée ou déclinée dans le temps ?
Des consultations déclinées dans le temps, d'abord thème par thème, puisque notre volonté c'est d'abord dans un premier temps, peut-être pour revenir chronologiquement, dans un premier temps de finaliser ce projet de loi qui est travaillé depuis longtemps. Nos prédécesseurs Christophe Castaner et Laurent Nunez avaient commencé à travailler ce texte. Nous l'avons repris avec Gérald Darmanin. Nous avons ajouté évidemment des dispositifs concernant notre sensibilité propre, mais aussi des choses qui répondent à l'urgence du moment. Et sous l'égide du président de la République et du Premier ministre, nous sommes en train de finaliser ce texte.
Le calendrier est inchangé ou ça pourrait prendre un peu plus de temps.
À ce stade, le calendrier est inchangé, mais vous savez que les calendriers peuvent être amenés à évoluer. Mais en tout cas, cette grande consultation, elle nous tient à cœur de maintenant à la fin de l'année, parce que c'est une manière pour nous justement d'abord de lever d'éventuels malentendus. Beaucoup de choses ont été dites dans la presse, des interprétations ont été faites pas toujours correctes, d'une part, et d'autre part, d'écouter ce que les gens, à la fois les grands intellectuels qui réfléchissent à ces questions, mais aussi les personnes qui y sont confrontées sur le terrain. Je pense à l'Ordre des médecins, par exemple, notamment, pour ce qui concerne les certificats de virginité, avec lesquels nous pourrons discuter et affiner nos dispositions.
Mais vous dites lutter contre les séparatismes. Au fond, pourquoi vous ne dites pas tout simplement lutter contre l'islam radical religieux ? Parce qu'au fond, vous ne visez que cela.
Alors, d'abord, deux choses. D'abord, il s'agit effectivement de lutter contre l'islam radical. Et je suis très tranquille avec ça, pour le dire très simplement et en ces termes. Mais il n'y a pas que cela. Nous voulons lutter aussi, par exemple, contre le suprémacisme blanc. Plusieurs attentats, je pense notamment à Christchurch, ont eu lieu. D'ailleurs, en France, un attentat a été déjoué, qui était préparé
parce
par
qu'à la base, le séparatisme, ça vise
aussi
effectivement des groupuscules extrême droite, c'est ce que vous dites.
Alors, ce sont des groupuscules radicaux, extrémistes, qui veulent s'organiser contre la République. Nous avons un arsenal juridique très fort en matière de lutte contre le terrorisme, et il est, me semble-t-il, à ce stade, selon les experts, suffisant. En revanche, il y a un combat culturel et il y a une infiltration de ces thèses séparatistes, d'islam radical, mais aussi, par exemple, d'un certain nombre de dérives sectaires. D'ailleurs, on peut débattre pour savoir si l'islam radical est une forme de dérive sectaire, ce que je crois. Et donc, nous allons aussi lutter contre ces dérives
mais
sectaires.
Mais par exemple,
dans ce projet de loi.
Le séparatisme corse, c'est aussi dans votre viseur ou ça n'en fait pas partie ?
Alors, pardon, je vais être un peu brutale, mais je suis un peu lassée que dès lors que quelqu'un veuille poser une question sur le séparatisme, on fasse référence à la Corse. Les Corses sont
ça
dans
existe.
La République. Bah, écoutez, s'il y a des bombes qui sont déposées, l'arsenal législatif, il existe pour faire en sorte de condamner les personnes qui déposent des bombes. Toute action violente doit être évidemment combattue avec la plus grande sévérité qu'elle émane de Corse ou de qui que ce soit d'autre. En revanche, il n'y a pas à l'heure actuelle de groupuscules extrémistes corse qui s'organisent de manière violente, avec des actions violentes contre les lois de la République pour renverser la République française.
Alors le problème, c'est que vous dites, vous avez expliqué dans la presse et publiquement, pas un euro d'argent public ne sera versé aux ennemis de la République. Mais la démarche justement séparatiste de certaines associations, c'est justement de ne pas prendre d'argent public. Ils sont financés par la solidarité communautaire. Donc est-ce qu'au fond, vous n'êtes pas un peu à côté du... la réponse n'est pas à côté du problème.
Détrompez-vous, parce que véritablement, ce que l'on observe en matière de vie de ces associations, eh bien, c'est que justement, elles vivent aussi, pour beaucoup d'entre elles, d'argent public. Pourquoi ? Parce qu'il y a des endroits en France, dans lesquels des quartiers, dans lesquels la République a reculé, dans lesquels les services publics ont reculé, et dans lesquels l'offre associative a reculé. Et donc, jadis, vous aviez du soutien scolaire organisé par différentes associations, notamment autour de grands partis politiques, comme le PCF, quand il était très influent dans ces quartiers, par exemple, entre autres. Ces associations-là, elles ont reculé. Donc la nature a horreur du vide. Il y a une offre, une nouvelle offre qui s'est constituée, qui est une offre communautariste. Mais... Et sous couvert, je termine juste là-dessus, parce que je pense que c'est intéressant, sous couvert d'activités sympathiques comme l'aide aux devoirs, l'association sportive, etc., font en réalité de l'entrisme avec des fonds publics.
Mais c'est intéressant ce que vous dites. Vous dites, au fond, c'est quand il y avait le communisme municipal que cette donc, jonction s'est faite entre communautarisme, association d'élus et association communautaire, mais de droite à gauche, on a vu depuis des années, notamment dans les banlieues, passer ce genre d'accord. Pourquoi vous ne le dénoncez pas ?
Passer ce genre d'accord sur l'activité associative ?
Oui, absolument.
C'est justement ce que nous allons faire. En fait, le dénoncer, c'est bien, et ça, on le fait de longue date. Moi, je suis une des seules responsables politiques de mon camp à avoir pris parti, notamment contre ce qui s'est passé à Grenoble, quand il y a eu ces actions coup de poing sur les burkinis, et que le maire de Grenoble est resté incroyablement silencieux des jours durant. Donc, je suis très tranquille avec ça. Mais nous voulons aller plus loin, et donc nous créerons un contrat d'engagement sur les valeurs de la République et la laïcité, avec un droit d'opposition du ministère de l'Intérieur. Et dès lors que nous constaterons que les valeurs de la République, la laïcité, mais aussi l'égalité entre les femmes et les hommes, ne sont pas respectées, nous couperons les vivres tout simplement, et cela d'ailleurs pourrait être rétroactif, et nous pourrons demander le remboursement des subventions de l'argent public.
Nicolas Barré.
Dans certains quartiers, vous le savez, des petites filles sont déscolarisées, elles restent à la maison sous la pression de milieux islamistes radicaux. Gérald Darmanin d'ailleurs avait évoqué ce problème avant d'être ministre de l'Intérieur. Ça se passe en France et en 2020. Comment est-ce qu'on peut lutter contre ça ?
Oui, bien sûr, et d'ailleurs j'observe que dès lors qu'on évoque ces questions, on nous dit que ce serait du fantasme, certains nous disent que ce serait du fantasme, que ça n'existerait pas, etc. Moi, je l'ai vu d'ailleurs quand j'étais élue locale, vous avez raison de le rappeler, il y a certains quartiers dans lesquels vous avez encore des mères en burqa qui viennent chercher les enfants, bien que ce ne soit pas autorisé. Et vous avez aussi des petites filles qui sont déscolarisées, ou des petites filles, des jeunes filles, j'en parlais hier avec Yanis Roder, qui est un expert de ces questions, membre du Conseil des Sages et enseignant en Seine-Saint-Denis, qui me faisait part d'une augmentation de l'allergie au chlore. Des parents qui ne veulent pas que leur fille aille au cours de natation et donc font faire des certificats, parfois, semble-t-il, de complaisance, en disant qu'elle serait allergique au chlore et qu'elle ne pourrait donc pas se rendre dans les cours de natation.
Mais alors donc, tout ça, on le sait, hein, ces phénomènes de petites filles déscolarisées. Et pourtant, comment est-ce qu'on peut agir contre ça?
Justement, c'est pour ça que nous voulons agir. Nous voyons d'ailleurs Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, avec Gérald Darmanin dès demain pour travailler ensemble sur ces questions. Et je crois que le projet de loi contre les séparatismes devra pouvoir combler les zones grises. Il y a des choses qui existent déjà dans la loi et qui doivent être appliquées. Et c'est le travail que mène le ministre de l'Éducation nationale. Mais il y a aussi des zones grises. Et ces zones grises, nous entendons bien y répondre dans ce projet de loi contre les séparatismes. Parce que la laïcité, peut-être si j'ai deux minutes pour le rappeler, la laïcité, c'est ce qui nous protège en tant que citoyens. Et c'est ce qui fait que, notamment à l'école, vous avez ce que la philosophe et l'experte Catherine Kinsler appelle l'espace de respiration républicaine. Parce que quand vous êtes un élève dans l'école de la République, vous êtes considéré simplement comme un élève et pas comme un élève de telle religion ou un élève de telle, entre guillemets, communauté. Et donc c'est fondamental pour nous de préserver cet espace de respiration républicaine.
Est-ce que vous avez lu le rapport sur la radicalisation dans les services publics des deux députés, dont un, La République En Marche, Éric Pouillat, et puis Éric Diard, dont ELR. Ce dernier d'ailleurs a prolongé son travail avec
un livre,
la publication d'un livre. Quelles sont les solutions? Faire signer une charte aux fonctionnaires qui prêtent serment, qu'est-ce que vous préconisez?
D'abord, je reviens en 30 secondes sur la question de la charte, parce que j'ai entendu les uns et les autres dire, notamment au Rassemblement National, « Haha, une charte, etc. » pour décrédibiliser ce travail. Je rappelle qu'il s'agit vraiment d'un contrat d'engagement et que c'est inédit et que ce sera dans la loi et donc ça aura valeur législative et que donc c'est quelque chose de très concret et pas une déclaration d'intention, mais quelque chose qui engagera sur fait de couper tout simplement les vivres et l'argent public. D'une part sur la question de la charte. D'autre part sur la question de la fonction publique, vous avez tout à fait raison. Là, l'idée n'est pas de faire signer une charte. Quand on signe un contrat de travail et qu'on s'engage à travailler pour l'État ou pour une organisation qui a une délégation de service public, une DSP, on respecte les valeurs de la République. Donc là, nous y répondrons aussi dans le projet de loi contre les séparatismes. Et nous sommes en train de mener un travail avec le ministre de l'Intérieur pour voir comment juridiquement, très concrètement, nous y répondrons.
Jusqu'où irez-vous? Puisqu'il y a un engagement qui est fait, si vous considérez que cet engagement n'est pas respecté, en clair, est-ce que la radicalisation peut devenir un motif de révocation des fonctionnaires, ce que ça n'est pas aujourd'hui?
Alors ça, nous sommes en train d'y travailler, donc je ne peux pas pour l'instant vous apporter de réponse. Puisque
est-ce que vous considérez que c'est important d'arriver à ce niveau?
Bien sûr, mais moi je pense que c'est fondamental et je pense qu'on ne peut pas tolérer, ne serait-ce que pour des questions d'ordre public, on ne peut pas tolérer qu'en France, en 2020, il y ait des personnes radicalisées qui représentent une menace pour la République au sein même de l'appareil d'État. Donc évidemment, c'est un sujet fondamental.
On a compris que quand vous êtes arrivé à ce ministère, vous avez un petit peu cherché votre place et puis vous, maintenant, vous installez dans l'idée de dire à Place Beauvau, ça n'est pas uniquement la sécurité, c'est aussi la citoyenneté, la laïcité et la partie, on va dire, entre guillemets, plus positive de l'approche de la sécurité. Mais il n'empêche qu'en cette rentrée aussi, la sécurité, le sentiment de sécurité, la réalité de l'insécurité, on appellera comme on voudra, et tous les termes qu'on a vu cet été, notamment autour de l'ensauvagement supposé porté par Gérald Darmanin. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous pensez que c'est un problème auquel vous devez répondre?
Oui, pour vous répondre très simplement, oui. D'abord, je ne crois pas avoir cherché mes marques plus que ça, dans la mesure où la défense des valeurs de la République, c'est quelque chose que je défends de très très longue date, avant même d'être d'ailleurs élue. J'ai publié deux livres dans les deux dernières années, un qui s'appelle « Laïcité, point », et l'autre qui s'appelle « Une et indivisible, l'urgence de défendre la République ». Donc c'est au contraire parce que je portais cette défense des valeurs de la République que le président Emmanuel Macron et le Premier ministre ont souhaité me confier ce ministère qui porte notamment sur cette défense et cette promotion des valeurs de la République. Mais sur ce que vous évoquez, oui, moi j'observe que d'ailleurs toutes les études d'opinion le disent, la question de la sécurité ont remonté dans les préoccupations des Français, et donc la question de l'ordre républicain aussi. Je crois qu'il y a
un
certain nombre de
faits. Il y a un procès en naïveté qui est fait globalement à la Macronie, au président de la République lui-même, qui ne serait pas assez allant sur ces sujets. Comment vous répondez à cela?
On peut nous faire tous les procès. Certains nous font un procès en naïveté, certains nous font un procès en excès de volonté sur la sécurité. Donc on peut nous faire tous les procès, c'est le jeu politique. Moi, ce que j'observe, c'est que l'ordre républicain, il nous protège de l'ordre des clans. Le jour où il n'y a pas d'ordre républicain, c'est la loi de la jungle et c'est la loi du plus fort et je ne le souhaite pas.
On se retrouve avec Marlène Schiappa pour la dernière partie de ce grand rendez-vous.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et l'on retrouve Marlène Schiappa, ministre déléguée, qui forme un tandem avec Gérald Darmanin. On écoute, on regarde. Pierre Mick, maire de Bordeaux.
Nous ne mettrons pas des arbres morts sur les places de la ville. Fin 2020, nous adopterons ce qu'on appelle la charte des droits de l'arbre, qui est un règlement de protection des arbres qui n'existe pas.
Alors, le sujet en général fait polémique à la veille de Noël, mais là il n'y a plus de saison, hein, comme on sait. Donc le maire écologiste de Bordeaux veut supprimer, entre autres, le fait de mettre des sapins de Noël sur la place publique. Qu'est-ce que vous en dites ?
Je trouve ça navrant. Je trouve ça navrant et j'ai eu l'occasion de le dire, mais moi je trouve que toutes les décisions qui sont prises là par les maires EELV depuis qu'ils sont aux responsabilités sont des décisions rabat-joie. Et je le dis volontairement tel quel, parce qu'on a vraiment l'impression que tout ce qui peut amener un peu de cohésion dans le pays, un peu de joie, un peu de fête, bah, ils souhaitent l'interdire entre
mais
celui
ils ont été
qui...
élus, ces maires.
Fort bien, ils ont été élus. À aucun moment, j'ai dit qu'ils n'avaient pas été élus. Et à aucun moment, j'ai dit qu'ils n'avaient pas le droit de prendre des décisions. Ils ont parfaitement le droit de prendre des décisions. Mais j'ai le droit de dire que ce sont des décisions ridicules. Et quand on nous explique qu'en fait, on ne va plus décorer d'arbres de Noël parce qu'on n'aime pas les arbres morts, scoop, il existe des sapins en pot. Il existe une possibilité de planter des sapins, même s'ils sont gigantesques, immenses, etc. On peut en planter un qu'on laisse là toute l'année, on le décore à Noël. Il y a des choses à faire. Et dernière chose, moi, j'observe que ce sont des gens qui se revendiquent étant de gauche, etc., etc. Mais qui ça prive quand on supprime les décorations de Noël dans l'espace public, quand on ne veut pas que le Tour de France passe par sa ville? Ce sont les familles les plus modestes qui sont privées. Parce que quand vous êtes riche, vous avez les moyens de vous faire un magnifique sapin avec de belles décorations et d'avoir des loisirs chers. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, vous êtes très content de pouvoir participer à des grandes compétitions sportives, rencontrer des champions cyclistes ou profiter avec votre famille des belles décorations de Noël.
C'est-à-dire que derrière votre diatribe et votre colère, ce qu'on entend, c'est au fond votre critique du projet de société, comme dit Jérôme Fourquet, les Français veulent, les écologistes veulent que les Français fassent pénitence.
Bah c'est un peu ce qu'on ressent, oui. Enfin, d'ailleurs, je trouve que c'est un peu nébuleux. C'est quoi le projet ? C'est quoi le projet dans le fait de dire qu'on va interdire au Tour de France de passer dans sa ville parce qu'il est machiste et polluant ? Pardon, mais enfin, moi, je crois que personne ne me dénie mon engagement féministe depuis le plus jeune âge. Il y a des grandes championnes cyclistes comme Jeannie Longo, notamment, qui est française, et d'autres partout dans le monde. Le féminisme, ça n'a jamais été interdire aux mecs de faire du vélo.
C'est pas le vélo qui pose problème à ces maires écologistes, c'est la caravane du Tour en l'occurrence.
Et vous comprenez bien qu'il y a
des symboles aussi de la part de ces maires écologistes.
Moi, ce que je comprends, en tout cas moi, ma vision des choses, que ce soit pour l'écologie, pour le féminisme, pour tout, c'est que je suis favorable aux transitions et à inclure le plus de monde possible avec nous. Il y a des grandes compétitions sportifs qui polluent, c'est vrai, le Tour de France, les 24 heures du Mans, j'ai été élue du Mans, et bien ces grandes compétitions sportives, elles évoluent. Il y a de la recherche sur les véhicules à hydrogène, par exemple, qui sont présentés et financés chaque année aux 24 heures du Mans. Le Tour de France évolue sur la place des femmes pour justement maintenant mieux les valoriser, qu'elles soient moins des femmes objets.
Comment devrait-il évoluer, selon vous?
On peut simplement accompagner ces évolutions de société et faire des transitions sans vouloir interdire les sapins de Noël, le Tour de France, et quelle est la prochaine interdiction de ELV? Je crois que politiquement, le projet de ELV, c'est s'indigner, interdire. Il n'y a rien de positif qui ait été proposé. Et je ne dis pas ça parce que je serais anti-écolo. J'ai pris des mesures absolument écolo, notamment dans mon ministère, dans l'organisation quotidienne, mais aussi auprès de l'ONU sur la question de l'écoféminisme. Mais je crois que l'écologie, justement, ça mérite mieux que ces mesures ridicules.
Vous venez de la gauche de la Macronie, vous avez cette sensibilité. Est-ce que vous êtes toujours à l'aise avec la politique suivie aujourd'hui? Comment est-ce que vous qualifiez la ligne politique aujourd'hui d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'il s'est droitisé depuis le début du quinquennat?
Un de vos collègues dit qu'on a changé d'électorat en cours de mandat. Notre électorat maintenant, c'est le centre-droit.
Ça, c'est un peu factuel. C'est pas une analyse disruptive de dire cela. Si on regarde les gens qui sont venus voter en 2017 et si on regarde les analyses et les gens qui sont venus voter pour d'autres élections, notamment par exemple aux élections européennes, effectivement, l'électorat a pu changer. Mais moi, ma volonté en étant au gouvernement, c'est de m'adresser à tout le monde. Et je crois que je veux m'adresser à la fois...
Vous êtes encore capable de vous adresser à la gauche ?
Oui, je crois. Et d'ailleurs, je crois que les gens qui sont de gauche, qui viennent de la gauche républicaine, sont attachés aux questions aussi de laïcité, d'économie. Et je crois que ce qui a fait s'effondrer la gauche au présidentiel, jusqu'à faire un score de 6%, alors que ce parti, le Parti socialiste, avait le président de la République sortant, le gouvernement, la majorité présidentielle, ils se sont effondrés à 6% parce qu'ils ont abandonné les thèmes de l'économie, mais aussi les thèmes de la sécurité et des valeurs de la République. On a eu beau jeu de ricaner de Ségolène Royal quand elle parlait de chanter la Marseillaise. Je pense qu'on aurait mieux fait de l'écouter à ce moment-là.
On montrera effectivement que vous défendez aujourd'hui Ségolène Royal, mais c'est vrai qu'au sein, par exemple, du groupe parlementaire, on a assisté depuis un an et demi environ à une forme de dislocation, à une déception, à même un groupe qui s'est donc créé, qui a quitté une partie de la Macronie parce qu'il considérait que les valeurs de gauche n'étaient plus assez représentées comme ça l'était au début du mandat. Christophe Castaner vient d'être élu à la tête du groupe des parlementaires. C'est au fond un marcheur des premiers jours qui vient aussi du Parti Socialiste. Ouais. Mais est-ce que vous êtes, une fois de plus, c'est ma question, est-ce que vous allez être capable de ramener cet électorat qui est parti ?
D'abord, sur les députés, plusieurs choses. J'observe qu'il y a des députés qui ont effectivement quitté le groupe La République En Marche. Quelques-uns, on reste un groupe pléthorique, et beaucoup sont partis au Modem. Donc en fait, sont partis chez nos voisins, nos partenaires. C'est la même maison, c'est la même majorité. Donc s'ils se sentaient plus à l'aise avec l'organisation politique du groupe Modem plus que la REM, c'est tout à fait leur liberté. Ensuite, d'autres sont partis ailleurs. Mais moi, je m'interroge sur ce qu'on appelle défendre les valeurs de gauche, parce que certains qui sont partis ailleurs sont par exemple ceux qui ont défendu l'oncle et la tante, qui ont tendu une jeune fille après l'avoir tabassée parce qu'elle était amoureuse d'un garçon d'une autre religion. C'est ça une valeur de gauche ? Je pose la question.
Donc là, vous pointez effectivement l'attitude, comme disait Damien Fleurot, de Dorian Attaché, qui a défendu cette personne-là, c'est ça que vous dites ?
Bah oui, moi je comprends. On dit maintenant je suis de gauche et on met n'importe quoi dedans. Alors je suis de gauche, alors je veux pas de sapin de Noël. Je suis de gauche, alors je trouve que c'est normal de tabasser et tondre sa nièce quand elle est amoureuse d'un jeune homme d'une autre religion. Ou en tout cas, je l'excuse. Moi, je ne crois pas que ce soit ça, la gauche. Moi, je crois qu'on peut être de gauche et responsable. Et je crois que cette famille, la social-démocratie et la gauche républicaine, je pense qu'elles ont tout pour se reconnaître dans la politique menée par Emmanuel Macron, qui est une politique humaine, responsable et sociale.
En quelques mots, vous mettez en cause Aurélien Attaché qui saura évidemment répondre. Quand vous entendez Christian Estrosi, le maire de Nice, dire « le candidat de la droite, c'est Emmanuel Macron », qu'est-ce que ça vous fait ?
Non, c'est pas exactement ce qu'il a dit.
Si, c'est ce qu'il dit.
Non, il n'a pas dit ça. Il a dit qu'il souhaitait, il n'a pas dit le candidat de la droite Emmanuel Macron. Il a dit je souhaite pour 2022 que nous ne présentions pas de candidat et que la droite vote pour Emmanuel Macron qui deviendrait notre candidat.
Ça revient à peu près au même.
Non, c'est pas la même chose. Je suis assez attachée au sens des mots. Bah, d'abord, Christian Estrosi est libre de sa parole. Et s'il souhaite que Emmanuel Macron fasse un deuxième quinquennat, eh bien, j'en suis ravie. On ne demande pas les origines aux gens, on ne demande pas d'où vous venez, on leur demande où vous voulez aller. Et s'il est d'accord sur le projet d'Emmanuel Macron, moi, je trouve ça positif qu'on rallie des gens qui viennent de la droite et qui viennent aussi de la gauche.
Marlène Schiappa, d'ailleurs, on voit bien que effectivement vos prises de position elles sont très tranchées et que vous les portez, mais ça attire aussi des critiques assez virulentes parfois, notamment provenant du monde artistique, qui vous reproche ou votre politique ou vos prises de position. Julie Gayet, qu'on juge que le Grenelle des violences conjugales est un échec. La chanteuse Lio vous accuse de trahir la cause des femmes suite à vos déclarations au sujet des procédures en cours sur les soupçons donc, par le passé d'agression sexuelle de Gérald Darmanin, dont une des procédures, je le précise d'ailleurs, a été classée. Comment vous réagissez à ces attaques ? C'est la campagne présidentielle qui a commencé ? Ou c'est vous qui agacez ?
Il faut poser la question à Julie Gayet.
Oui, mais je vous pose la question à vous, en l'occurrence.
Moi, j'observe que, d'abord, ce que vous dites sur le monde artistique, ça se résume...
Ça ne se résume pas,
je
restitue deux personnes.
Il y a des gens, il y a deux personnes dans le monde artistique qui ont parfaitement le droit de faire de la politique. Et si Julie Gayet décide de faire de la politique, c'est parfaitement son droit en tant qu'actrice. En revanche, moi, je veux bien qu'on fasse de la politique, je veux bien qu'on soit un peu de bonne foi et un peu sérieux aussi sur ce dont on parle. Julie Gayet s'est exprimée là-dessus en disant « il y a une hausse du nombre de féminicides en 2019 ». Et donc, c'est l'échec du Grenelle des violences conjugales. Première méconnaissance des chiffres. Parce qu'en réalité, depuis environ 15 ans, en tout cas depuis que le ministère de l'Intérieur publie chaque année l'étude qui s'appelle l'étude sur les morts violentes au sein du couple, le chiffre, hélas, des féminicides est le même à 25 près. Donc, il y a eu une baisse en 2018 et ensuite, il y a eu une hausse en 2019 qui nous a ramené aux chiffres habituels qui étaient les chiffres du quinquennat de François Hollande. Au demeurant, je n'ai pas entendu Julie Gayet critiquer les chiffres du quinquennat de François Hollande. Ensuite, sur la question du Grenelle, c'est justement parce qu'il y a eu ce début de hausse en 2019 que nous avons décidé, avec le président Emmanuel Macron et le Premier ministre Édouard Philippe, de faire un Grenelle des violences conjugales qui s'est tenu de septembre à décembre 2019 et dont deux lois ont été adoptées et promulguées en 2020. Donc dire que des décisions prises fin 2019 et début 2020 parce qu'il y avait une hausse des féminicides, la conséquence, ce serait la hausse des féminicides, c'est ne rien comprendre à la fois aux chiffres et à la fois, pardon,
mais ce que vous comprenez, c'est qu'elle fait de la politique
à la protection des femmes face aux violences conjugales.
Ce que vous comprenez, c'est qu'elle fait de la politique rapidement.
Chacun déduira ce qu'il veut déduire.
Rapidement, le président de la République a demandé au ministre de s'engager dans les prochaines élections régionales notamment. Ça vous intéresse ? Vous serez candidate à la tête d'une région ?
J'ai honnêtement, très sincèrement, pas du tout réfléchi. Pour l'instant, je suis vraiment très concentrée sur ce beau ministère de la citoyenneté qui est une création de ministère. Et on a donc un projet de loi qui va nous demander beaucoup de mobilisation avec Gérald Darmanin.
Merci Marlène Schiappa, c'était donc son grand rendez-vous. On se retrouve dimanche prochain. Europe 1.